7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
C'était Natacha Polony à l'instant dans la matinale. C'était la matinale de Ligne Droite le 26 février dernier. Un entretien à retrouver dès maintenant sur notre chaîne YouTube ou sur rc.fr. Je vous rappelle que Radio Courtoisie est une radio indépendante. Notre fonctionnement est intégralement financé par nos auditeurs et ce depuis maintenant près de 40 ans. Ce système unique nous permet de vous garantir une liberté de ton totale. Alors pour nous aider, rendez-vous sur soutenir.rc.fr pour nous faire un don en ligne ou bien adressez vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. On poursuit ce programme un peu spécial pour ce lundi de Pâques. L'équipe de la matinale prépare d'ores et déjà son retour demain à 7h. En attendant, chers auditeurs, nous vous proposons un extrait de notre émission du soir « Restons courtois » du lundi au vendredi de 17h30 à 19h30. Découvrez nos émissions en partenariat avec L'Incorrect, Boulevard Voltaire ou encore Valeurs Actuelles. Des échanges rythmés, sans tabou, qui décryptent pour vous l'actualité et les grands enjeux du moment. Le 16 mars dernier, c'est Yvan Rioufol qui était en plateau avec nos éditorialistes. Il présentait son dernier livre et nous parlait de la France, celle dont vous faites probablement partie, chers auditeurs, celle qu'on entend trop peu, la France des oubliés. C'était au micro de Pierre-Alexandre Bouclet, en compagnie de Richard de Sèze, Arthur de Vatrigan, Xavier Van Lierd et Jean-Yves Le Gallou. Bonne écoute.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Amis du lundi, Hardy, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle édition de Restons Courtois, votre émission de débat sur les ondes de Radio Courtoisie en partenariat avec Valeurs Actuelles, avec L'Incorrect et avec Boulevard Voltaire. Ce soir, en grand invité, nous avons la joie d'accueillir Yvan Rioufol à l'occasion de la sortie de son livre « La révolution des oubliés » paru chez Fayard. Et avec lui, au moment où notre pays et notre peuple semblent menacés de disparaître purement et simplement, eh bien nous évoquerons les petits signes d'espoir qui permettent d'espérer un redressement de dernière minute. Et peut-être que les brillants résultats du RN ou des partis patriotes dans de nombreuses communes aux élections municipales seront l'un de ces signes, il nous le dira dans un instant. Bonsoir Yvan Rioufol.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, les auditeurs merci vous connaissent bien, puisque vous êtes un des chroniqueurs de la matinale Ligne Droite, et donc vous venez de publier La Révolution des Oubliés aux éditions Fayard, c'est une excellente petite collection d'ailleurs que je pensais libre, où vous nous expliquez que le vieux monde politique, en gros, ne tient plus qu'à un fil. Vous nous dites, oui, la France peut se redresser. Là, rien n'est foutu, dites-vous. Il existe des sources revigorantes à la suicidaire dépression de la nation. Elles sont au cœur du peuple silencieux, méprisé par ses dirigeants frivoles. Et vous ajoutez que le véritable homme providentiel, c'est le peuple français. Alors, il y a de l'espoir. Et avec lui, donc, nous allons faire un état des lieux et mesurer les motifs d'inquiétude et d'espoir pour notre pays, avec, selon chacun son tempérament, un peu plus d'inquiétude ou un peu plus d'espoir. Mais voilà, on va essayer d'être factuel. Alors peut-être, avant de voir ces messages d'espoir, un petit retour en arrière. Donc vous avez commencé comme jeune journaliste à Nantes, c'est ça, vous étiez fait diversier.
J'ai commencé en 1967, j'ai fait des études de droit, et puis ensuite je me suis écarté de la trajectoire que je m'étais donnée. Je n'avais pas beaucoup de vocation à être avocat, je me destinais à ça, pour recommencer. Et effectivement, après Océan, qui était le journal local, qui est toujours le journal local de Nantes, j'ai immédiatement été affecté au ce qu'on appelait les chiens écrasés, mais qui étaient vraiment à l'époque des chiens écrasés. C'est-à-dire qu'en fait d'hiver à Nantes, dans les années 70, 80, il ne se passait strictement rien, sinon des chutes de vélo, des beuveries d'alcooliques ou des bagarres de paliers. Mais il n'y avait
vos
pas...
remplaçants ou du boulot maintenant, je peux.
Et mais il n'y avait pas effectivement cette dérive à la Chicago qu'on l'on voit aujourd'hui. Donc j'ai encore un peu d'attache à Nantes et quand j'y retourne, je ne reconnais plus ma ville. Mais c'est un déchirement. Je ne sais pas si on en reparlera.
Ah ben
mais
allez-y,
c'est une ville qui a été totalement bouleversée sociologiquement.
En 10-15 ans, non, c'est ça ?
En 30 ans.
30 ans.
En 30 ans, depuis les années 90, depuis la première élection de Jean-Marc Ayrault jusqu'à son successeur, qui est également dans la filiation du Parti Socialiste, mais qui a conceptualisé une ville ouverte, une ville ouverte aux réfugiés, une ville ouverte à la diversité, et une ville qui est devenue méconnaissable d'abord par sa sociologie, c'est-à-dire qu'elle est pour partie devenue très africaine et maghrébine, pour dire les choses comme elles sont.
Avec beaucoup de Roms également. C'est une ville qui s'est flattée d'accueillir le plus de Roms en Europe.
Et le dernier reportage que j'avais fait pour Presse Océan en 84 était pour alerter à l'époque le maire de l'époque, qui était Michel Chauty, un maire de droite, sur l'implantation d'une minuscule mosquée qui avait été cédée par l'évêché de l'époque devant le stade Marcel Soupin dans le quartier Malakoff. Déjà à l'époque, j'avais pu faire une filiation entre cette mosquée et l'Iran à travers des contacts postaux notamment.
Ça remonte à quelle époque, ça ?
Ça, c'était en 84. C'est mon dernier article, c'était la petite mosquée, mais qui était vraiment une mosquée de rien. Or, aujourd'hui, il y a une mosquée de Malakoff, mais qui est vraiment une mosquée cathédrale. Et il y en a 4 autres ou 5 autres, je ne sais plus exactement, dans Nantes, plus des petites mosquées qui sont éparpillées. Donc Nantes, en partie, s'est islamisée, dans l'indifférence, et même sous les encouragements de la gauche locale, et dans l'indifférence, visiblement, d'une partie de la population, puisque cette population...
Et donc ce sont des chiites, c'est ça ?
À l'époque, elle était chiite. Alors, j'ai perdu de vue, je ne me suis plus intéressé à cela. D'ailleurs, je remarque que la presse locale ne s'était pas non plus beaucoup intéressée à la suite à donner à cette enquête, parce qu'ensuite, je suis monté à Paris, comme on dit. Et donc, j'ai abandonné cette investigation-là.
D'accord. Et alors oui, donc c'est aussi un lieu d'accueil des Roms. Moi, j'avais fait un reportage pour Valeurs Actuelles, je m'en souviens très bien, qui avait valu un procès au journal. Alors, on avait perdu sur la couverture, mais gagné sur le procès, mais c'est devenu un enfer avec la délinquance.
Plus les zadistes, plus qu'on a vu.
Exactement, plus Notre-Dame-des-Landes.
Plus Notre-Dame-des-Landes, et plus une tradition révolutionnaire qui, à Nantes, est établie quand même d'une manière assez historique. C'était, à mai 68, avait débuté à Nantes à Sud Aviation, mais à l'époque, c'était une gauche qui était une gauche ancrée sur la classe ouvrière. Il y avait une classe ouvrière. Tandis que maintenant, c'est une gauche qui est entrée
diversitaire
vers le nouveau peuple, qui est le peuple remplaçant, remplaciste, et qui est indifférent au peuple remplacé.
Et alors, vous, quand en 84, vous publiez cette enquête, c'est parce que vous commencez à percevoir des signes avant-coureurs ou c'est juste un sujet parmi d'autres?
Non,
qui
parce que déjà à l'époque, il y a des signes avant-coureurs, il y a déjà des lanceurs d'alerte. Enfin, je discerne des lanceurs d'alerte. Je n'ai plus en mémoire quels étaient ceux qui avaient alerté là-dessus. Mais enfin, et en plus, il n'était pas anodin de voir s'installer au cœur de la cité des Ducs de Bretagne une mosquée dans l'indifférence de tout le monde. Et donc, ça avait piqué ma curiosité. Et en effet, ce que j'avais pu dénoncer comme étant une sorte d'aveuglement municipal, parce que le maire de l'époque, Michel Chauty, avait découvert quelle était effectivement l'existence de cette petite mosquée. On a vu que depuis, naturellement, cette ouverture à cet islam religieux, enfin cet islam politique, a amené à ce que l'on voit aujourd'hui d'une cité aujourd'hui morcelée, balkanisée et surtout empreinte à une insécurité galopante.
Oui, c'est un peu un laboratoire de la France, non ? Parce qu'en fait, c'était quand même une ville bourgeoise, assez riche, tranquille, avec un gros patrimoine culturel. Et puis maintenant, c'est un désastre sans nom.
Encore une fois, c'est une ville que je ne reconnais plus. Ouais. Mais enfin, je n'y habite plus. Mais enfin, il y a beaucoup de témoignages de Nantais qui y habitent et qui maintenant ne veulent plus y rester. C'est une ville qui est devenue insécure. Je donne les chiffres que je n'ai plus en tête, mais avec...
C'est un des plus gros palmarès de l'insécurité en France, généralement,
année après année. Vous avez des règlements de compte entre bandes qui se succèdent jusque dans les quartiers pile-mille, ou dans les quartiers les plus tranquilles de l'époque. Aujourd'hui, vous avez des fusillades, des règlements de compte entre bars à chicha, etc. Vous avez des gangs, des narcotrafics. Enfin, bref, vous avez le lot commun de ce qui se passe dans toutes les autres grandes agglomérations qui se sont ouvertes indifféremment à une immigration de peuplement qui, à l'intérieur d'elle-même, a apporté le narcotrafic, a apporté l'islamisme et a apporté toutes ces causes d'une déstabilisation, d'une harmonie sociale et culturelle.
Et culturelle, oui. Alors après, donc, vous êtes parti à Paris donc, en 84.
84, oui, 84. Oui.
Et là, vous avez retrouvé...
Où
avez-vous vécu, tiens, d'ailleurs, à Paris ? Dans quel arrondissement est-ce que vous étiez ?
J'étais dans le 2e arrondissement, dans une toute petite chambre que j'avais pu trouver. Et de 84 à 85, j'ai cherché un pied-à-terre que je n'avais pas. Et donc, je l'ai trouvé d'abord à Madame Figaro et ensuite au Figaro, voilà.
D'accord. Vous êtes passé donc de faits diversiers de presse quotidienne régionale
Au Figaro, il cherchait un spécialiste de la vie des médias, parce qu'il lançait la vie des médias. Et donc, j'ai dit que j'étais spécialiste de la vie des médias alors que je n'y connaissais rien.
Et ça, c'est du journalisme.
Et on m'a pris comme ça.
Bon, ça voilà. Vous a porté chance, parce qu'après, vous avez remplacé Max Klo au bloc-notes.
Voilà, c'est ça. Auparavant, j'étais correspondant du Quotidien de Paris. Et à l'époque, j'avais pris des contacts avec Bernard Moreau, qui était le directeur de la rédaction du Quotidien de Paris, qui, me voyant arriver à Paris, m'a pris ensuite comme adjoint au Figaro quand il est arrivé au Figaro. Enfin, voilà. C'est des petites filiations amicales qui ont fait que j'ai pu m'installer au Figaro et puis faire mon trou, en effet, en 2002. Quant à la mort de Max Klo, on m'a proposé de reprendre le bloc-notes.
Mais avant ça, vous faisiez donc vous continuiez à faire du terrain
Non, j'étais rédacteur en chef du service société au Figaro.
C'est-à-dire pour les médias, et c'est tout.
Alors j'étais aux médias d'abord, puis ensuite appelé par Bernard Moreau comme adjoint au service société. Et au service société, j'en fus le rédacteur en chef. Et j'envoyais sur le terrain mon équipe de journalistes, nous étions une trentaine dans le service société.
Et là, est-ce que vous continuiez à percevoir justement tous ces petits signes avant-coureurs
Bien sûr.
Pire qu'à Nantes. Enfin oui, à Nantes, à l'époque, c'était tranquille de toute façon. Donc il n'y avait pas de problème.
C'était dans les années 90, ouais. C'était le moment où les professeurs n'osaient pas encore s'avouer qu'ils étaient malmenés, violentés par leurs propres élèves. Et nous avions notamment demandé à un professeur d'ouvrir pour nous son carnet quotidien pour qu'il relate quels étaient effectivement le sort de ces professeurs. Et depuis, c'est devenu une banalité
que les professeurs
se font malmener par leurs élèves et qu'ils n'arrivaient pas, dès cette époque-là, à imposer, ne seulement un récit historique sur des événements qui ne plaisaient pas à des élèves musulmans.
C'est concomitant avec la sortie du livre « Les territoires perdus de la République »
Non, c'était en 90, « Les territoires perdus », c'est 2002.
Ah oui, 10 ans quand même. Oui.
Donc à l'époque, on s'intéressait beaucoup aux banlieues parce qu'on voyait que dans ces banlieues-là, il y avait effectivement un processus de séparation qui arrivait déjà avec une génération très virulente. Et on avait des très bons journalistes de terrain qui nous rapportaient effectivement ce qui est apparu ensuite comme étant effectivement un vrai séparatisme culturel et identitaire.
Et vous pouviez l'écrire, ça, dans le Figaro ?
Oui, bien sûr. D'accord. Oui, sans problème. Oui, non, j'ai jamais eu aucune difficulté à écrire quoi que ce soit dans le Figaro, et encore plus quand j'ai eu à tenir le bloc-notes dans lequel je parlais très librement.
Oui.
Mais c'est trop de journalistes qui allaient sur le terrain et qui vérifiaient que la France était en train de glisser peu à peu sur une pente dangereuse. On a l'impression que ce ne sont plus du tout les mêmes qui sont au Figaro, parce que dans les années 2000-2010, au service société, on avait l'air de considérer que la diversité était quelque chose de bien.
Écoutez, je ne sais pas. Ne me faites pas dire du mal du Figaro.
Ah oui, on sont des amis en plus.
En tout cas, je peux vous dire, de ce que j'ai connu, moi, il y avait effectivement cette volonté d'aller voir sur le terrain. C'est une école que j'ai eue moi-même par mon apprentissage après Sociéan. Je n'ai pas fait d'école de journalisme. Et donc, je me suis toujours attaché à aller directement voir les gens, rentrer dans les cuisines, rentrer dans les salles à manger, voir comment les gens vivaient, souffraient, riaient, etc. Et je me suis appliqué, une fois que j'ai été rédacteur en chef du service société, des infos gênées, comme on dit, à demander aux journalistes avec qui je travaillais d'aller également sur le terrain pour vérifier ce qui commençait à advenir, effectivement, du voile à Créteil. C'était en 95, le voile à Créteil. L'histoire du voile, des fillettes qui portaient le voile à Créteil, c'était 90. Et donc, déjà, on avait des signaux d'alerte, notamment sur l'apparition du voile, notamment sur l'indifférence des hommes politiques. Là, c'était Jospin à l'époque qui disait « l'islamisme, moi, je m'en fous », etc. Et donc, il y avait matière déjà à alerter. On n'a pas alerté suffisamment, mais enfin, il me semble que...
Grande alerte au moment du voile de Créteil, puisque dans les mois qui ont suivi, il y a eu une élection partielle à Dreux, et qu'à l'époque, Marie-France Tirebois a été élue au scrutin majoritaire, ce qui était extrêmement bouleversant dans le contexte de l'époque, précisément à cause de l'affaire du voile des filles de Créteil.
Octobre 89.
Octobre 89, oui.
Avec mon intelligence déportée.
Dans cette révolte des oubliés, vous témoignez, et c'est ce que disait Pierre-Alexandre Bouclet au début de notre conversation, d'un certain optimisme, alors que quand on regarde la manière dont la justice criminalise ceux qui prétendent que Crépols est une histoire de racisme anti-blanc, quand on regarde la manière dont l'État a matraqué les gilets jaunes avant de les éborgner et a gazé les agriculteurs avant de les braquer au pistolet, on a l'impression que cette révolte des oubliés, elle est véritablement matée par le pouvoir et que ces oubliés ne sont pas juste oubliés, ils sont en permanence disqualifiés.
Oui, vous avez mille fois raison. Et ces oubliés sont maltraités. Je parle de maltraitance de ces oubliés-là. Et effectivement, il y a une révolte sourde qui peine effectivement à émerger, sinon effectivement à travers des épisodes ponctuels comme les gilets jaunes, comme les paysans, comme les policiers qui manifestent dans la rue pour réclamer la protection des citoyens. C'était ça, c'était il n'y a encore pas si longtemps, avec une inversion des priorités, avec ces familles de victimes de la diversité qui aujourd'hui osent accuser l'État, je pense à Mme Comines, d'avoir tué effectivement par indifférence, d'avoir tué leur proches, leur mari en l'occurrence pour Mme Comines, ou des enfants, etc. Donc vous voyez bien qu'il y a ici et là des mouvements de révolte qui me semblent être des signaux faibles, effectivement, d'une irritation qui pourrait être fédérée. Mais je remarque aussi que si nous sommes dans une sorte de période révolutionnaire qui a envie, qui veut sortir de ce système épouvantable, c'est une période révolutionnaire qui manque de révolutionnaires pour la question que vous avez dite, c'est-à-dire que vous avez toute une partie d'une société qui est victime du syndrome du chien battu, si j'avais à résumer d'un mot, et qui n'ose plus, à la limite, sortir ou même exprimer la moindre indignation de peur d'être sans doute catalogué de fasciste, d'extrême droite, ou qui sait dès à présent qu'elle ne sera pas entendue. Et ce que l'on voit d'ailleurs à travers les municipales avec ce fort taux d'abstention montre que cette société des oubliés ne joue plus le jeu démocratique. Donc c'est pour ça que j'attends, et en même temps je veux être optimiste, parce que sinon ce serait désespérant. Je vois malgré tout qu'à travers cette société civile, il y a beaucoup à travers les sondages, ne serait-ce que les sondages, quand vous voyez que, par exemple, les trois quarts des Français dans les sondages disent que la démocratie ne joue plus son rôle, que 10% simplement des Français soutiennent les partis politiques, que 20% des Français soutiennent les députés, vous voyez bien qu'il y a une expression d'une volonté de sortir de ce système. Il y a un appétit d'anti-système, que l'on a vu d'ailleurs apparaître lors de ces élections avec les bons scores, alors naturellement inquiétants de la France insoumise, mais plus rassurants du Rassemblement national. Donc c'est en fonction de ces réalités-là et en fonction du fait que il me semble que les élites sont maintenant totalement déconnectées et ne voient pas quelles erreurs elles ont commises depuis 50 ans, et qu'en tout cas ce ne seront pas elles qui les corrigeront, et qu'il faut donc sortir de ce système. Et pour sortir de ce système, il faut un sursaut démocratique qui ne peut être donné que par cette société oubliée, cette société silencieuse, qui a encore les idées claires, qui est encore imprégnée de bon sens, et qui pourrait, pourvu qu'on lui en donne les moyens et qu'on la rassure, et qui pourrait effectivement balayer ce monde qui, de mon point de vue, ne tient plus qu'à un fil. Il ne tient que par les intimidations, les violences et les insultes portées à cette société dite populiste qui est simplement la France profonde, cette France qui ne veut pas disparaître. Donc c'est pour ça que je m'applique, mais j'entends naturellement toutes les réserves qui peuvent être faites à cette France qui, pour l'instant, reste aussi majoritairement pantoufleurde. Moi, j'avais applaudi aux Gilets jaunes, j'avais soutenu les premiers Gilets jaunes, et j'avais été désarçonné de voir avec quelle précipitation cette même France des Gaulois s'était précipité pour prendre ses pantoufles et s'abriter derrière ses masques sanitaires quand, à travers la crise du Covid, on lui avait fait croire que l'hygiénisme d'État obligeait à obéir à des considérations et des impératifs complètement absurdes. Et les Français se sont rangés à cela. Donc j'ai effectivement été ébranlé par leur docilité, alors que j'avais été admiratif devant leur réactivité de naguère.
Oui. Vous êtes en accord, je crois, avec Xavier Van Liert, qui a dû partager les mêmes sentiments, j'ai l'impression, non ?
Absolument. Alors, je pense toutefois que les deux phénomènes sont liés. C'est aussi parce que les Gilets jaunes avaient été très largement quand même brimés. Je pense que leurs réserves de révolte et de sédition avaient été épuisées pour un bon moment. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater localement dans le Vaucluse. Il y avait une forme de prudence chez les anciens Gilets jaunes qui étaient restés, et je parle ici des premiers Gilets jaunes, ou ceux qu'on appelle les Gilets jaunes des champs, pour les opposer aux Gilets jaunes des villes, qui ont plutôt pris le dessus dans la seconde phase, à cause, à mon sens, de cette erreur stratégique qui était de se rendre à Paris, ce qui a permis, ce qui a facilité, d'une part, leur cassage de gueule, d'autre part, la prise de contrôle de l'extrême gauche, alors que, plus localement, c'était resté vraiment plutôt un mouvement populiste, poujadiste, certes désordonné et gaulois, mais très sain. Mais en revanche, ils se souvenaient quand même très largement de ce qu'ils ont pris dans la figure, et donc, tout en étant eux aussi extrêmement exaspérés, parce que c'était des gens qui étaient du côté de la liberté, liberté d'entreprendre, mais toutes les libertés en réalité, ils étaient devenus d'une très grande prudence, parce qu'ils savaient ce qu'il en coûte, et puis ce sont des gens qui travaillent. Je pense que on oublie ça, les premiers Gilets jaunes, en réalité, ont aussi été contraints par le fait que quand on est entrepreneur, eh bien c'est plus compliqué de manifester en continu. Et que c'était une des raisons pour lesquelles ça s'est éteint. Et que pendant la période du Covid, eh bien ils étaient essentiellement soucieux, je pense, de sauver leurs entreprises, leur emploi et leur famille, un peu désarçonnés probablement, enfin un peu désespérés, de voir que ça n'avait pas débouché. Sinon, je pense que ça ne serait pas passé de la même façon, sincèrement.
Oui, mais je suis d'accord avec vous. En effet, moi, j'avais été très admiratif de cette réactivité des premiers Gilets jaunes que j'avais suivis tous les samedis à Paris même, parce que même si c'était des Gilets jaunes de province, ils montaient à Paris pour essayer d'ébranler effectivement la quiétude des Parisiens, qui d'ailleurs ne se sont jamais rangés à cette manifestation. C'est là où on voit d'ailleurs que le potentiel révolutionnaire n'est plus un potentiel révolutionnaire parisien, mais un potentiel révolutionnaire girondin, si vous voulez, décentralisé, provincial, dans le fond, et ce qui est un des bouleversements, me semble-t-il, qui pourrait apparaître, parce que dans cette révolution que je décris, c'est une révolution qui est très largement portée par ce qu'on appelle la France périphérique, la France rurale, la France des oubliés. Ce n'est plus la France des métropoles qui...
Exactement, oui, parce que ce n'est pas que Paris. Avant de laisser la parole à Arthur de Vatrigan, mais ce n'est pas que Paris. C'est l'ensemble des grandes villes qui sont devenues des villes très bourgeoises, très bobos, finalement, très macrono-socialistes.
Bah c'est la différence que nous propose de faire, la grille de lecture que nous propose de faire Christophe Guilluy entre les métropoles et la France de la périphérie.
Les
métropoles sont devenues des métropoles déracinées et la France périphérique est une France enracinée. J'oppose les déracinés et les enracinés comme grille de lecture commode, et effectivement on arrive à comprendre davantage quels sont les grands soubresauts historiques à travers... Le rapprochement, par exemple, entre les métropoles et les banlieues d'immigration, qui trouvent là une exploitation facile d'une manœuvre docile, et puis la France des déracinés, cette France oubliée, qui est une France majoritaire sociologiquement, cette France française, ou rejoint par des étrangers qui ont accepté de se fondre dans la société française, représente 70% de la sociologie. Or, c'est une France qui n'apparaît plus du tout dans les discours politiques. On n'y parle que de la France de la diversité qui serait amenée, au nom d'une tyrannie des minorités, à imposer ses normes, sa culture, ses lois, sa religion. Et donc, c'est pour réparer cette injustice que je me mets à la... comme porte-parole de cette France majoritaire, de cette France française, de cette France des Français de souche, mais il n'y a pas que des Français de souche, il y a des Français de cœur, qui veut garder la pérennité de la culture française et qui, pour cela, est traité de fasciste ou d'extrême droite.
Ou à voir de nazis, maintenant.
Ou de nazis.
Parce que depuis la dernière campagne municipale, on a monté un échelon.
On a upgradé.
Bientôt ultra-nazis, rassurez-vous. Xavier, peut-être en un mot, et ensuite la parole à Arthur qui la demande.
Oui, je suis tout à fait d'accord sur le diagnostic entre la France des métropoles et la France dite périphérique, qui est en fait la France des petites villes et des provinces. Les dernières élections municipales, enfin le premier tour en tout cas, confirme ce diagnostic. Je suis un petit peu plus réservé sur l'opposition. J'aimerais bien pouvoir opposer les déracinés des métropoles aux enracinés des campagnes, Je pense toutefois qu'il faut y rajouter une troisième catégorie, moins réjouissante, ce sont les déplacés. D'ailleurs, je pense que les plus gros scores du RN ne sont pas ne viennent pas de gens enracinés dans les campagnes, mais plutôt de gens qui ont été chassés à la fois des banlieues et des grandes métropoles. Des grandes métropoles par l'augmentation délirante des prix de l'immobilier et la connexion de ces grandes métropoles à un réseau quand même de mondialisé de métropoles qui est branché sur d'autres réalités, et chassé des faubourgs, des banlieues, des quartiers populaires des métropoles par l'immigration arabo-musulmane. Et je pense qu'il ne faut pas oublier cette catégorie-là.
Les déplacés
du Liban, il y a aussi des déplacés en France.
Oui, vous avez parfaitement raison. Vous avez beaucoup de cette France périphérique, qui est une France qui était avant une France banlieusarde, mais ces déplacés sont des enracinés dans la mesure où ils se reconnaissent précisément dans une continuité historique. C'est en cela que je parle d'enracinés, c'est-à-dire qu'ils se reconnaissent dans les racines françaises, tout simplement. C'est en cela que j'employais le mot d'enracinés. Les enracinés ne sont pas ceux qui n'ont pas bougé de leur lieu depuis 10 générations, bien sûr, parce que de toute façon, ça n'existe plus.
Ça n'existe plus, oui.
Et donc, non, je parle de ces Français, quand je parle des Français enracinés, je parle de ces Français qui sont attachés à la culture française et à la préservation de la culture française, et qui, en fond, ce sont ces Français qui ne veulent pas que la France meure, tout simplement. Et hors de dire cette évidence, n'en est plus une à partir du moment où vous avez maintenant une France qui a été conceptualisée notamment par Jean-Luc Mélenchon, mais aussi par Emmanuel Macron, qui est une France diversitaire, une France multiculturelle, une France métissée, une France créolisée, et en fait, au bout du compte, une France islamisée qui recueille l'assentiment d'une grande partie de l'intelligentsia et de la gauche et du macronisme réuni, c'est-à-dire de la gauche et de la gauche. Le macronisme étant effectivement une partie de ce qu'était le Parti socialiste. Donc c'est en cela que je parle d'enraciner. Mais oui, je vous suis, bien entendu. Il y a beaucoup de ces enracinés qui ont dû fuir ce qui a été à un moment donné leur racine.
C'est ce que Fourquet avait appelé le vote TGV pour les plus aisés, et ce qu'on a appelé aussi en bon français le white flight, c'est-à-dire la fuite des blancs, littéralement les blancs qui quittaient les banlieues et qui sont réfugiés en périphérie puis maintenant à la campagne, et qui se sentent de plus en plus acculés.
Et qui forme maintenant, qui forme au moins deux Frances. Tout le monde parle maintenant de ces Frances qui sont face à face, mais c'est une réalité. J'avais fait un livre il y a maintenant 15 ans, ou 10 ans, 15 ans, qui s'appelait « La guerre civile qui vient », où j'observais effectivement les tensions identitaires culturelles qui commençaient à apparaître entre cette France dite populaire, qui est la France des cités, qui pour partie est une France très largement maintenant islamisée, en tout cas musulmane, et puis effectivement est soutenue par la France insoumise elle-même, c'est-à-dire par des Français à prénom français, et puis cette autre France française qui elle, est de plus en plus sur la défensive.
Et cette France de la gauche, vous disiez des prénoms français, qui est très bourgeoise aussi.
Et très bourgeoise, absolument.
C'est une gauche, petit bourgeois, bourgeoise.
Enfin, petit bourgeois, en tout cas, je ne sais pas si c'est des bourgeois, mais petit bourgeois, c'est une France très parisienne. Ouais. C'est cette France de
très
cette
urbaine,
France de
LFI
arrive à vivre dans des appartements à 10 000 euros le mètre carré. Donc, effectivement, ouais. C'est...
Et même parmi les assassins de Quentin Durand, qu'on avait vu, il y en a qui étaient des enfants de fils de producteurs de cinéma, qui avaient une riche vie culturelle lyonnaise.
Ouais, les Antifa, où il y avait les petits-fils de Bernanos, vous savez.
Oui,
c'était,
absolument. C'est vrai, quelle horreur. Arthur de Vatrigan.
Est-ce qu'on n'a pas une vision un peu idyllique, parfois romantique, de cette France dite des oubliés, de la France périphérique? Vous avez dit qu'ils étaient, vous avez été déçu par le réflexe un peu pantouflard. Je n'ai pas le sentiment qu'ils soient moins égoïstes que les autres, moins américanisés que les autres, moins racaillisés que les autres quand on voit la nouvelle génération. Est-ce qu'on ne se fait pas une image un peu trop romantique de cette France?
C'est possible. C'est en effet un argument tout à fait valable. Moi, je ne veux voir chez eux que le potentiel de rébellion qui existe, car encore une fois, j'observe dans les réactions d'exaspération qu'il y a quand même ce sentiment d'injustice qui les parcourt. Mais en effet, la mondialisation, l'américanisation, le consumérisme ne les a pas épargnés. C'est une affaire évidente. Alors, et peut-être, en effet, sera-ce l'écueil qui fera que ce que j'appelle de mes voeux d'une révolte populaire, d'une révolution populiste, n'aura pas lieu. J'examine cette hypothèse dans mon livre. Je ne suis pas du tout aveugle sur les défauts ou sur les faiblesses, effectivement, de cette France oubliée-là, qui est une France qui peut-être a perdu le goût de vivre et qui n'a plus envie de se défendre. Mais je fais le pari, encore une fois, ne serait-ce qu'à travers ce que l'on voit d'autres sociétés comme la société britannique, où on a vu que très récemment, les Anglais sont descendus massivement dans la rue. Alors, les Anglais ne sont pas les Français, j'entends, mais enfin, ils subissent les mêmes phénomènes. Ils sont descendus très massivement dans la rue à Londres pour dénoncer une immigration de peuplement qui commençait à mettre en péril leur propre cohésion nationale. Je veux imaginer que les Français pourraient, par exemple, se retrouver devant de telles manifestations de masse, en observant que pour l'instant, ça n'a pas lieu, j'en suis bien d'accord, mais j'observe aussi que, malgré tout, le monde politique n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire que, quand je vous disais que tout à l'heure que dans les sondages, c'était un sondage IFOP qui montrait que 10% des Français seulement faisaient confiance aux partis politiques, on se rend compte que ce sont encore les partis politiques qui dominent la vie politique en disant aux uns et aux autres de s'allier ou de ne pas s'allier. Et donc, il est parfaitement irritant et superficiel que d'avoir à les suivre. Et j'attendrai qu'il y ait une personnalité je propose dans mon livre de créer le parti du peuple, c'est-à-dire de créer ce parti qui pourrait fédérer les quelques colères disséminées qui existent malgré tout et qui pourraient passer outre ce que vous décrivez, Arthur, qui est exact, de cet aquabonisme, de ce défaitisme qui existe aussi dans une société déprimée. Mais je comprends parfaitement, effectivement, que cette société puisse être déprimée avec ce syndrome de Bartleby. Vous savez, c'était le livre de Melville, Bartleby. Je préfère ne rien faire, I would prefer not to. Et donc, il y a aussi ça dans la société française. Oui, bien sûr, nous sommes une société malade, c'est une société qui doute d'elle-même, et c'est une société qui manque pour l'instant de leaders qui pourraient galvaniser la foule. J'ai bien aimé, par exemple, la manière dont Boualem Sansal représente pour moi effectivement ce qu'est maintenant le courage d'un intellectuel quand il décide, c'était une anecdote qui a eu lieu ce week-end, quand il décide de
changer d'éditeur,
quitter Gallimard, qu'il l'a trahi pour aller vers Hachette et le groupe Bolloré, en disant que lui ne renoncerait pas à résister notamment à l'islamisme et à la rhinocérite de toute cette classe intellectuelle qui ne voit rien du danger. Eh bien, ce sont des personnalités comme ça, des personnalités de rupture qui peuvent galvaniser une société pour l'instant endormie. Et on n'est pas obligé d'avoir à attendre d'un homme politique, j'attends pas grand-chose d'un homme politique, qu'il fasse la même chose, donc j'attends plutôt ça d'une société civile, de quelqu'un qui pourrait émerger. Pourquoi pas Boualem Sansal ou d'autres, ou plusieurs autres.
Avant de donner la parole à Jean-Yves Le Gallou, que pensez-vous des actions ou des activités de quelqu'un comme Alexandre Jardin, qui justement essaye de...
C'est très intéressant, j'en parle dans mon livre, effectivement. L'espoir qu'il a de fédérer à travers l'Internet, c'est ce nouvel outil de communication qui est en train de fédérer toutes les opinions et qui est en train de détrôner le quatrième pouvoir médiatique pour devenir lui-même... ce quatrième pouvoir numérique. Et je trouve intéressant de voir que des personnalités comme Jardin essayent de fédérer les colères à travers, effectivement, cet Internet qui devient la bête noire, d'ailleurs, du pouvoir politique, puisqu'il veut à tout prix l'interdire, le mettre sous contrôle. Et donc, il y a là un potentiel. C'est pour ça que quand je parle de révolution, je parle de cette révolution du bon sens et de cette révolution numérique qui permet aujourd'hui à toute cette société oubliée de se fédérer et d'exposer des idées qui peuvent émerger dans le débat public et qui émergent dans le débat public. Parce que maintenant, vous vous rendez compte que l'Internet, à travers les vidéos notamment, oblige les télévisions, ne serait-ce qu'elles, à se colter au réel, à un réel qu'elles ne voulaient pas voir jusqu'à présent. Donc déjà maintenant, à travers le traitement de l'information...
Pratiquement, même, c'est presque l'inverse désormais. C'est-à-dire que beaucoup d'éditorialistes, beaucoup de journalistes font leur sommaire en fonction des grandes tendances de comptes comme Twitter.
Ma source d'information principale aujourd'hui, c'est Twitter. Ce n'est plus les journaux, les journaux mainstream. Ma source d'information, c'est Twitter. Ce sont les médias alternatifs, comme vous êtes. Et les médias, encore une fois, c'est pour ça que je soutiens que le quatrième pouvoir, aujourd'hui, a été perdu de la part des médias, à cause des médias qui trop souvent ont été connivants avec le pouvoir, ont simplement cherché à colporter la pensée commune, le discours officiel, et à être du côté du manche. Moi, je ne supporte pas d'être du côté du manche, en tout cas.
Jean-Yves Le Gallou, qui n'est pas trop non plus du côté du manche.
Non, mais on peut effectivement penser qu'il y a il y a un potentiel formidable de ce côté-là, si on regarde en 10 ans comment les choses ont évolué. C'est-à-dire l'apparition d'Internet, en gros, c'est 2000-2002. Bon, de 2002 à 2015, ça a beaucoup...
Grand champ de liberté, c'est le Far West. Oui.
De 2015 à 2025, extension quand même des médias alternatifs, des médias hors système ou demi-hors système. Et si la tendance se prolonge, en 2035, il y aura vraiment un bouleversement. Reste à savoir s'il sera encore temps, puisque ce qui joue contre nous, c'est quand même la démographie. Et quand on parle du potentiel de révolte ou de rébellion des Français, je pense que le principal handicap, c'est la démographie, puisque il y a des classes d'âge blanches âgées et des classes d'âge jeunes de moins en moins blanches. Et donc ça, c'est quand même extrêmement préoccupant. Ce qui est, je pense, plutôt rassurant, c'est que dans les jeunes classes blanches, il y a une prise de conscience qu'il n'y avait pas il y a 10 ans ou 15 ans.
Hein, voilà. Oui, oui.
Mais qui prend du temps à
Mais
à
je suis d'accord avec vous, voilà. Mais je pense que si 2035, ce sera trop tard. Je pense que l'urgence est telle aujourd'hui que c'est tout de suite, c'est maintenant qu'il faut réagir si l'on veut éviter effectivement le grand chamboulement, le grand basculement. Moi, je suis... Regardez ce qui se passe à Roubaix, par exemple, qui était une ville de droite il n'y a encore pas si longtemps et qui va basculer dans une ville LFI, mais...
Saint-Denis.
Sous couverture LFI, en fait, une ville islamiste. Et Saint-Denis.
La ville des rois qui est devenue la ville des Noirs, comme ils disent.
La ville des Noirs, on a entendu ça ce matin, c'est ahurissant. Et donc... Charles Martel doit
Charles
se...
Charles Martel, j'ai vu la tombe de Charles Martel il y a quelques mois avec le mes enfants. C'est terrible. C'est terrible quand on voit l'environnement.
Oui, c'est terrible.
Renaud Camus a sorti alors.
Oui, je maîtrise l'antenne. Je vous interdis de reprendre...
C'est une citation que nous condamnons fermement. Voilà. Mais il a parlé de Saint-Denis qui est devenu la négropole des rois.
Je condamne le propos absolument.
Je condamne aussi.
Ce qui est intéressant, c'est qu'à Roubaix, 47% de ceux qui ont voté LFI, à Roubaix, 47% des gens vivent en quartier prioritaire de la ville. Autrement dit, sous prétexte d'avoir une politique de la ville, sous prétexte d'avoir des politiques adaptées au quartier, on a en fait fabriqué un électorat d'extrême gauche qui sait exactement comment les subventions tombent et comment faire en sorte que ces subventions continuent à tomber.
Oui, mais vous avez raison. Mais c'est une des raisons de l'irritation de cette France oubliée, c'est que cette France mondialiste a été conduite sous prétexte d'une préférence étrangère pour essayer de ne pas avoir à subir les foudres de l'idéologie antiraciste, des accusations en xénophobie, en islamophobie. Et toute cette contre-société est une société qui a été très largement subventionnée et prioritaire dans les politiques de la ville, ne serait-ce que les politiques de la ville. Des milliards ont été déversés sur cette politique de la ville. Et pour des résultats qui sont plus que troublants, puisque malgré tout, cette contre-société s'est installée au cœur même de cette politique de la ville, avec une quérulence dans les propos, avec aujourd'hui, avec une société, une contre-société qui ne se reconnaît plus française, alors qu'elle a la nationalité française pour une partie d'entre elles. Et donc, c'est cette aberration idéologique, ce choix idéologique d'une préférence immigrée, d'une préférence étrangère, au lieu d'une criminalisation de la préférence nationale qui est insupportable à entendre, parce que quand vous criminalisez la préférence nationale, vous criminalisez dans le fond, et quand vous dites du populisme comme l'a fait Macron, que c'est un mal à abattre, un adversaire à abattre, eh bien vous criminalisez toute une partie d'un peuple, et ce peuple-là, c'est le peuple indigène, c'est le peuple enraciné, et c'est le peuple que je veux défendre.
Alors d'ailleurs, vous parlez de peuple déraciné contre les enracinés, mais on a d'un côté les bobos qui sont des déracinés, qui sont des mondialistes, des cosmopolites, qui vivent de la même manière entre Hong Kong, Dubaï et je ne sais où. Mais on a aussi des déracinés qui étaient des immigrés, mais qui, eux, se réenracinent. Et ils se réenracinent chez nous. Et c'est un peu ça le problème. C'est-à-dire qu'eux font...
Ils se réenracinent dans leurs racines originelles. Vous
voulez dire.
Mais donc ils restent, voilà, malgré tout, des racines. Ils restent pour l'instant des déracinés, mais ils pourraient effectivement s'enraciner, effectivement, si on avait à reprendre
de
s'enraciner dans une balkanisation. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Le risque aujourd'hui de la France, effectivement, c'est de connaître ce qui se passe au Liban depuis maintenant quelques années, c'est-à-dire une libanisation, une balkanisation. J'ai eu la chance d'avoir comme ami Jean Raspail, qui très souvent me disait que la France de demain serait une France qui serait éclatée en petits isolats. Ça peut effectivement être ce qui va advenir si rien n'est fait pour mettre un terme à cette immigration folle, parce que tout ceci, dans le fond, nous parlons là d'un grand remplacement qui advient, qui est revendiqué par Jean-Luc Mélenchon, qui est nié par le discours officiel, par les bobos.
Puisqu'il est même nié par Marine Le Pen.
Et qui est nié par Marine Le Pen, on se demande bien pourquoi.
Là, c'est un peu ce que vous appelez la révolution des œillères, avec jeu de mots fantastique d'ailleurs, avec la révolution des œillets, évidemment.
Oui, j'avais proposé la révolution des œillères, j'avais proposé ça en 2013, je crois, parce que j'observais que les idéologies s'effondraient sous le poids des réalités et qu'il fallait quitter ces œillères. Et d'ailleurs, j'ai vu que dans la réélection de Donald Trump, lui-même a pris comme concept la révolution du bon sens. Donc cette révolution du bon sens, cette révolution des œillères, est une révolution qui me paraît très intéressante à suivre parce qu'elle oblige aujourd'hui à admettre que toutes ces idéologies en isme se sont trompées, se sont fourvoyées et que depuis 50 ans, ceux qui nous dirigent ont mis la France dans cet état épouvantable qui est celui que l'on connaît aujourd'hui, dans son insécurité, dans sa désindustrialisation, dans la manière qu'elle a de s'être vidée de son âme comme on viderait un corps de son sang. C'est ça ce qui arrive aujourd'hui.
C'est une vampirisation.
C'est une vampirisation. Et donc, il y a là maintenant une urgence. J'ai dû dire à la dernière élection présidentielle qu'il était minuit moins 5, je pense que là, il est
minuit un quart,
il
quand
est
même.
Minuit moins 1 ou minuit, ou en tout cas, je ne vois pas. Si rien n'est fait dans ces prochaines années, c'est-à-dire s'il n'y a pas ce sursaut populaire qui mettra à bas ce monde épouvantable, c'est ce système qui ne fonctionne plus, je crois qu'on aura perdu la partie.
Alors, avant de passer peut-être à quelques motifs d'espoir, redonnons la parole à Xavier Van Lierde. J'attends pas de grands motifs d'espoir de lui, mais juste après, on en parle.
Notre conversation tourne autour des dynamiques démographiques et leur traduction électorale, ce qui est bien naturel après le premier tour que nous venons de vivre, puisque l'un des grands enseignements, c'est précisément que désormais, les dynamiques démographiques se traduisent en dynamique électorale, mais probablement peut-être aussi parce que nous ne combattons pas tout à fait à armes égales. C'est-à-dire que du côté de la France insoumise, on offre à ce nouvel électorat, dit de la Nouvelle France, un horizon désirable, galvanisateur, une sorte de mythe fédérateur qui est celui de la créolisation, alors que la même réalité en face ne peut pas être décrite, puisque, comme chacun le sait, le grand remplacement ne peut pas être utilisé comme mythe mobilisateur, enfin comme même décrit pour décrire la réalité, puisque ce serait une théorie conspirationniste, d'extrême droite, etc. Les uns peuvent donc être mobilisés, galvanisés, les autres sont contraints de ne pas voir la réalité en face. Bon, toujours est-il que, puisque l'enjeu est principalement démographique, je voudrais vous poser cette question, Yvan-Henri Rioufol, que pensez-vous du concept de remigration ou de nécessité d'inverser les flux migratoires, au-delà de la prise de conscience à laquelle vous appelez ?
Oui, eh bien, à un moment donné, il va falloir effectivement poser la question de savoir s'il ne faut pas d'abord réformer le droit du sol et l'accès à la nationalité, parce que dans les faits, vous voyez que vous avez des Français qui ne se reconnaissent plus Français. Et à partir du moment où vous avez des Français qui ne se reconnaissent plus Français, on peut également se poser la question très légitime de savoir s'il ne faudrait pas les rapatrier. Moi, je n'aime pas beaucoup le mot de remigration, je préfère celui le mot de rapatriement, parce que dans le fond, si leur patrie n'est pas la France, leur patrie sera dans leur pays d'origine, et pourquoi pas aller les rejoindre. Et donc ce concept-là de rapatriement ne me choque pas du tout. Il faut naturellement... D'abord, il ne me choque pas parce que nous avons connu également, la France a connu exactement ce même type de rapatriement avec les Français d'Algérie. Nous serions en droit de rendre la monnaie de la pièce. Et naturellement, il faut le faire avec bon escient. Il ne faut pas mimer la brutalité qui avait été celle du régime algérien vis-à-vis des Français, des pieds noirs de l'époque et des harkis, bien sûr. Mais moi, je ne suis pas choqué de la manière que pourrait avoir un pouvoir de constater qu'il y a dans le défaut d'intégration, dans le refus d'intégration, matière pour les délinquants en tout cas, et pour ceux qui refusent de s'assimiler ou enfin, de se reconnaître dans une société au point de la haïr, d'aller rejoindre une société davantage islamique ou davantage appliquant la charia, puisque en général, c'est pour ces genres de motifs que que l'on parle de remigration ou de et donc oui c'est, et encore une fois je pense qu'il faudrait d'abord poser la question de savoir quelles sont les conditions d'un accès à la nationalité en remettant en cause le droit du sol, en imposant peut-être le droit de la volonté, le jus voluntatis, c'est-à-dire que est français celui qui désire ardemment être français, car on voit bien qu'aujourd'hui cette nationalité donnée quasi automatiquement, c'est pas tout à fait le cas, mais quasi automatiquement, est vue parfois comme une violence identitaire par des Français qui, encore une fois, ne se reconnaissent pas comme étant français. Il faut prendre en considération.
Et chez certains des néo-arrivants, c'est plutôt une ardente volonté d'avoir des aides sociales ou.
Et plutôt que la carte d'identité, c'est plutôt la carte vitale, on est bien d'accord.
Ouais. Est-ce que vous pouvez nous consacrer encore quelques minutes ou il faut qu'on vous libère
c'est combien de
Cinq.
Alors,
rapidement. Alors, on a quelques messages d'auditeurs quand même qu'on voudrait vous lire.
Ah oui, Alexandre, alors, Alexandre Jardin, excusez-moi, j'étais en train de regarder les accords et les filles.
Il y a une bonne nouvelle d'ailleurs.
Les filles PS, etc. Alexandre Jardin est un descendant direct, je connais cette famille, de cette lâche et traître fausse droite qui a abandonné le peuple français qu'elle méprise et envoie de temps en temps un trublion pour récupérer des votes qui, sinon, iraient au RN. Un avis pondéré.
Je ne sais pas, je n'ai pas... Écoutez, je ne veux pas écorcher ceux qui font l'effort, en tout cas, d'essayer de fédérer les colères françaises.
Voilà. Et un autre dit, « Monsieur Rioufol, qu'on aurait assurément qualifié d'honnête homme à l'époque où l'on savait parler français, je voudrais poser cette question. Ne pensez-vous pas que l'on devrait systématiquement, quand on parle du PS, du PC, des Républicains et des autres, ne devrait-on pas dire fausse droite et fausse gauche ?
Oui, bah, bien sûr. Je le dis bien volontiers. Oui. Effectivement, la droite, c'est déshonoré. Les Républicains se sont déshonorés. Les Républicains, d'ailleurs, on voit bien, ils sont plus que résiduels aujourd'hui dans leurs appels encore à faire des barrages au Rassemblement National ou à Sarah Knaf ou à Paris. On voit bien que les Républicains ne comprennent rien à rien. J'ai eu quelques espoirs portés sur Bruno Retailleau, mais je vois, malheureusement, je suis obligé de remarquer qu'il n'a pas l'envergure d'un homme politique pour imposer une rupture, précisément, avec tous ces impératifs idéologiques qui viennent de la gauche, qui elle-même ne se gêne pas pour faire des alliances encore la semaine prochaine avec LFI, c'est-à-dire avec un parti qui promeut l'islamisation de la France.
Alors, c'est justement, ça fait partie des petits motifs d'espoir que me montrait Richard de Sèze il y a quelques minutes. Avant donc de vous libérer... une question et puis cette remarque. D'abord, croyez-vous vraiment possible la révolution non violente que vous appelez de vos voeux ? Et deuxième point, on vient de voir là qu'à Reims, les listes LR et RN vont fusionner pour faire barrage à la gauche. Est-ce que ça peut faire partie de ces motifs d'espoir qui contreviennent un peu à ce que
bien
à
sûr,
l'attitude
bien
des Retailleau, Wauquiez et autres.
Mais bien sûr, j'ai pour ça, je fais confiance à la, encore une fois au bon sens des Français. Ce sont les Français eux-mêmes qui doivent suppléer, qui doivent pallier les incapacités à réfléchir des partis politiques. Encore une fois, les partis politiques sont devenus une plaie dans leur posture mondaine, si je puis dire, qui empêche les Français d'avoir à s'exprimer. Donc oui, ça fait partie des motifs d'espoir. Mais encore une fois, je ne suis pas béat d'optimisme non plus.
Justement, la révolution non violente.
La révolution non violente, j'y aspire. Je ne veux pas d'une
révolution. Vous y croyez ?
C'est une révolution. J'appelle à une révolution démocratique, une révolution par les urnes. C'est-à-dire que les gens se mobilisent pour va faire valdinguer, pour obliger effectivement tout ce système, toutes ces élites. À céder la place à d'autres élites. Je ne remets pas en cause du tout les élites, mais il faut d'autres élites qui soient davantage ancrées
et
en résonance avec le peuple.
Eh bien, écoutez, sur ces propos de bon sens et révolutionnaires, de fait, merci beaucoup, Yvan Rioufol. Donc, vous venez de publier « La révolution des oubliés » dans la collection « Pensée libre » chez Fayard. Et écoutez, merci beaucoup d'être venu à l'antenne de Radio Courtoisie et j'espère à très bientôt et demain pour votre chronique.
J'appelle Fayard pour qu'il envoie tout de suite un livre à Arthur de Vatrigan, parce que c'est pas possible.
Ça marche, merci beaucoup.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
C'était Yvan Rioufol à l'instant dans l'émission Restons Courtois du 16 mars 2026. Un entretien à retrouver sur notre chaîne YouTube Radio Courtoisie ou encore sur notre site internet rc.fr. N'oubliez pas que vous pouvez également suivre les actualités de votre radio sur nos réseaux sociaux, notamment sur X ou encore Instagram. Restez bien avec nous, on se retrouve dans un tout petit instant.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent sur ce programme du lundi de Pâques dans lequel nous vous proposons de découvrir un échantillon de nos entretiens marquants. Tout de suite, on poursuit avec Jean-Jacques Cordival, le secrétaire général du syndicat des personnels de la communication et de l'audiovisuel, dénonce les dérives de France Télévisions et l'incompétence de Delphine Ernotte. Un entretien explosif, on vous laisse écouter.
Ligne à droite. Le grand entretien.
Bonjour Jean-Jacques Cordival et merci d'être avec nous. Est-ce que vous nous entendez bien ?
Oui, oui, tout à fait.
Vous êtes entre autres choses secrétaire général du syndicat des personnels de la communication et de l'audiovisuel. Et puis vous faites parler de vous en ce moment avec cette commission d'enquête que mène Charles Alloncle pour savoir comment est utilisé l'argent des Français par France Télévisions notamment. Et donc votre témoignage a été très précieux dans le cadre de ces enquêtes. Vous donc, Jean-Jacques Cordival, vous expliquez déjà pour commencer que la nomination même de Delphine Ernotte est déjà un scandale en soi. Donc on pourra ensuite entrer dans les détails, la façon dont fonctionne France TV. Est-ce que vous pourriez commencer déjà par nous livrer votre avis donc, sur cette nomination de Delphine Ernotte qui effectivement pose tout un tas de questions ?
Écoutez, elle remonte à 10 ans maintenant. Elle était encore à Orange à l'époque. À l'époque où le PDG était mis en examen pour, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire de l'arbitrage tapis, Stéphane Richard était mis en examen, elle envoie un mail aux 110 000 personnes de l'entreprise où elle explique qu'il faut en finir avec la corruption, la corruption, la corruption. Le mot apparaît plusieurs fois dans le mail qu'elle envoie au personnel. On est à l'époque des suicides, souvenez-vous. Vous imaginez la tête du PDG lorsqu'il arrive et qu'il voit ce mail adressé à tout le monde. Donc en gros, elle ne peut pas rester, c'est une évidence. Donc il faut, faut la mettre ailleurs, voilà. Et donc à l'époque, donc on a déposé plainte. La plainte a mis 6 ans avant de ne pas aboutir d'ailleurs, puisque tout était fait pour qu'elle aboutisse, mais elle n'a pas abouti. Quand je dis elle n'a pas abouti, c'est-à-dire qu'on a eu une juge d'instruction, on a eu une quarantaine de personnes qui ont été entendues, y compris le président de la République, y compris des membres du CSA. Et puis à la fin, on nous a dit, bon, la juge a été mutée. On nous a expliqué qu'en gros, on allait classer cette affaire, que normalement, elle n'aurait pas dû la classer. Point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3, mais elle a classé quand même. Et donc, on a saisi la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction a décidé qu'elle se substitue à la juge. Et donc, elle a classé cette affaire. On était déjà dans un deuxième mandat. Mais en gros, la loi dit qu'il faut quelqu'un du secteur, la loi de 2013, et il faut quelqu'un dont les compétences et l'expérience sont forcément un paramètre indispensable. Elle n'avait ni l'un ni l'autre, ni compétence, ni elle n'avait pas les critères de la loi et en plus elle ne venait pas du secteur. Donc ni expérience ni compétence en la matière. Elle a quand même été mise en place, parachutée. Moi, je ne trouve pas d'autre mot que parachutée.
Alors c'est finalement, l'un des aspects dénoncés donc, dans le fonctionnement de France TV, cette façon dont seraient placés les employés, les salariés. En réalité, on a l'impression d'être face à une grande bande d'amis qui se recyclent. Et puis, donc, vous expliquez aussi, Jean-Jacques Cordival, que certaines personnes, lorsqu'elles doivent quitter un poste, sont en fait reléguées sur d'autres postes qui sont présentés comme ne servant à rien, si ce n'est permettre de continuer à leur verser un salaire, encore une fois, avec l'argent public.
Regardez, une des dernières expériences, enfin, dernier fait en place, on vous annonce que le directeur de l'info, donc on en est au 7e, est remplacé. Très bien. Il est remplacé par quelqu'un qui vient de BFM, donc toute une partie de BFM arrive en même temps sur France Télévisions. Est-ce que vous imaginez la tête des gens, entre parenthèses, quand ils voient arriver... On leur dit qu'il n'y a plus d'argent, mais ils voient arriver tout un pan de BFM. C'est parfait. Donc, ce n'est pas des petits salaires à chaque fois. Donc, on en est au 7e directeur, peut-être, ça doit être le 8e, je crois, celui-là. Il y a un moment ou un autre, on vous dit, il a été mis sur un projet intelligence artificielle. alors que tout le monde sait, entre parenthèses, qu'il est en train de négocier son départ. C'est un secret pour personne. Le directeur précédent de France Info, par exemple, qui a été mis en défiance, on l'a retrouvé comme directeur de l'innovation. Je ne sais pas trop ce que c'est, directeur de l'innovation, mais enfin voilà. C'est vrai qu'à France Télévisions, on innove beaucoup.
Vous faites parler de vous particulièrement en ce moment, Jean-Jacques Cordival, puisque donc en prenant contact avec vous, vous nous avez livré cette information. Tout le travail de commission d'enquête qui est actuellement abattu par Charles Alloncle depuis maintenant des mois pourrait n'aboutir à rien, puisque le rapport qui est censé découler de cette commission d'enquête pourrait ne jamais voir le jour. Notre journaliste Julie nous en disait un peu plus, nous expliquait cela hier à l'antenne. Est-ce que vous pourriez repréciser ce qu'il se passe et donc nous parler de cette note que vous avez reçue et qui explique clairement que voilà, si jamais le résultat n'est pas satisfaisant, eh bien tout le monde pourra s'accorder, voter encore une fois entre amis pour que jamais personne ne puisse lire un quelconque rapport à propos de cette commission d'enquête.
Alors, vous avez compris que ce n'est pas moi qui décide de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas en commission d'enquête. Hein. Bon, vous dites depuis un petit moment, je dirais que sur une commission qui doit durer 6 mois, il y a déjà eu 3 mois de suspension voulue par le président Patriletus. Là, de nouveau, on est en suspension de 3 semaines à cause des élections. Et puis, ça se termine en gros fin mars. C'est-à-dire que Charles Alloncle, finalement, n'aura eu que 2 mois à peu près pour une commission qui dure 6 mois. C'est quand même formidable. On a quand même rarement vu ça. La deuxième chose, c'est que vous avez vu que quelqu'un intégrait la commission, un député qui s'appelle Masséglia. C'est ce député qui a fait voter un amendement au budget pour que, pour aller vite, pour aller à l'essentiel, le budget de France Télévisions continue à augmenter. Voilà, en tout cas, qu'il ne soit pas coupé. On demande des efforts à tous les Français, mais en tout cas, France Télévisions n'en demande pas. Voilà. Et la troisième chose, c'est que on parle de documents, qui sont des documents qui nous ont été transmis par rapport à des gens qui ont été auditionnés par la commission d'enquête. Vous avez pu remarquer, quand même c'est flagrant, qu'ils sont tous en train de lire des notes, en train de lire leur écran, en train de tourner les pages et lire quelque chose qu'on leur a préparé à l'avance. Alors, nous, on tient ça effectivement de quelqu'un qui a effectivement participé à cette commission d'enquête. Donc, en gros, on a monté une espèce de cellule institutionnelle, c'est comme ça qu'on peut appeler les choses, avec 3 membres de France Télévisions, un du secrétariat général, un de la présidence et un des services juridiques. On commence par faire une petite visioconférence avec les personnes qui sont convoqué, puisqu'on est convoqué. Après, on fait ça en présentiel, et en présentiel, on remet 3 petites choses. Une notice en expliquant que voilà comment il faut se comporter, et puis si jamais il devait y avoir un problème de juridique, le président est à peu près le seul à pouvoir actionner le levier juridique, et donc il est écrit en bas, mais le président nous est favorable. Bon, déjà, ça quand même, ça pose un problème, ça. La deuxième chose, c'est que vous avez, avec ça, une espèce de lettre de cadrage, note de cadrage, je pense que vous l'avez vu, où il est expliqué plein de choses. Voilà comment il faut que vous procédiez. En gros, c'est un peu les éléments de langage. Alors, surtout, si vous ne savez pas, vous dites, on vous transmettra, on vous l'enverra, ou alors, je n'ai pas la réponse là, mais on vous la fera parvenir. Comme ça, ça fait gagner du temps. Ou alors, comme on dit assez souvent, c'est... pas à ma connaissance. Ça, c'est le leitmotiv, pas à ma connaissance. Et puis, vous avez avec ça une liste des 31 membres de la commission, donc le nouveau qui vient d'intégrer, puisqu'il y en a un qui est parti. Donc, ce nouveau qui vient d'intégrer, c'est pas moi qui ai fait le communiqué, dit « Moi, j'intègre la commission, mais de toute façon, je voterai contre la publication de son rapport. » Il s'appelle Masséglia. Donc, vous avez quelqu'un qui intègre une commission et qui dit dès le départ « Je voterai contre son rapport. » Voilà. Et dans le document où il y a les 31 noms des députés, vous avez une petite note où il y a marqué 12 d'entre eux ont voté l'amendement Masséglia, donc forcément, donc ils nous sont favorables, et puis 6 autres que nous connaissons bien. Donc 6 et 12, ça fait 18. Vous imaginez si les 18 sur 31 se mettent en œuvre, se mettent dans l'idée d'annuler la commission, ils le feront forcément à la majorité. C'est assez incroyable, hein, c'est assez incroyable. On est, je me demande où on est d'ailleurs.
Oui, c'est assez effarant. Alors c'est exactement donc... grâce à cette note que vous nous avez envoyée, qu'on a pu en parler à notre antenne, s'interroger. Et il faut savoir d'ailleurs que Jérémy Patrieletus lui-même nous a accusé de propager des fake news sur les réseaux sociaux. Voilà, il nous a écrit « Ça suffit les fake news, laissez la commission d'enquête faire son travail, achever ses auditions et le rapporteur écrire son rapport. » Donc on va l'inviter évidemment à nous envoyer des preuves, puisqu'accuser un média de répandre des fake news, c'est quand même grave. Mais bon, ce que vous nous expliquez, a priori Jean-Jacques Cordival, c'est que c'est surtout la défense primaire de quelqu'un qui voit étaler au grand jour leurs méfaits en réalité, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, qu'il faut appeler leur comportement, et donc que ce soit dans le fonctionnement de France TV, mais même dans le fonctionnement même de cette commission d'enquête. Une fois de plus, les Français assistent à cela de façon un peu consternée.
Écoutez, je ne sais pas si vous avez vu l'intégralité de l'audition à laquelle nous avons participé mercredi dernier.
Une bonne partie.
À un moment, vous avez une question de la députée socialiste Aïda Dzé au sujet de ce déplacement à Cannes. Puis d'un seul coup, moi j'explique que nous on répond spontanément aux questions qu'on nous pose, on n'a pas de papier, on n'a pas de notes, on n'a rien, on fait ça spontanément. Et je suis étonné, puisque c'est ce que je viens de vous expliquer, qu'une cellule, on va dire institutionnelle, prépare les gens, parce que là il n'y a plus aucune sincérité, il n'y a plus rien, puis chacun dit ce qu'il veut. Et elle me dit, mais monsieur, elle le dit en pleine commission, mais monsieur, à chaque commission d'enquête, on envoie les questions avant. Vous auriez dû voir la tête de Charles Alloncle, qui était à 11h, presque en face de moi, enfin 11h, c'est pas tout à fait en face de moi, il était interloqué en disant « Mais comment on envoie les questions avant ?» Alors, si on envoie les questions avant, si on a tout avant, c'est pas la peine de faire une commission d'enquête, c'est une mascarade. Moi, je veux bien qu'on dise, encore une fois, ça a été dit en commission par la députée socialiste. Alors, donc, encore une fois, si on envoie les questions avant, c'est pas la peine de faire une commission d'enquête. On demande aux gens « Écrivez-nous un petit papier, puis à la limite, on l'écrira pour vous, puis voilà, on fera le job. » Si vous voulez... certains, vous avez compris, dans les 12, peut-être dans les 18, crient au scandale en disant le rapporteur, encore une fois, poursuit des ambitions politiques qui ne sont pas les nôtres, on doit lutter contre les extrêmes, etc. etc. Mais ce n'est pas ça le sujet, c'est-à-dire que quand on pose des questions, quel que soit le parti duquel on vient, on pose des questions. Nous, on a clairement dit dans cette commission d'enquête, c'était clair, on est pour les salariés et contre la privatisation. C'est assez simple, on veut un service public fort, mais pas un service public tel qu'il est aujourd'hui. C'est comme vous l'avez dit, une bande de copains, une bande de coquins, c'est le monde de l'entre-soi, avec un budget, mais vous l'avez compris, vous avez 2,5 milliards à peu de choses près, donc ça fait 5 parts de camembert, vous prenez un camembert, vous avez des parts à 500 millions chacune, vous avez une part pour l'intendance, deux parts pour les salaires, puisque la Cour des comptes dit que lorsque Ernotte est arrivée, elle était à 894 millions d'euros. Aujourd'hui, on arrive au milliard. Rapport de l'Inspection générale des finances, là, pour le compte, en 2024. Et on arrive au milliard avec 2300 personnes de moins. Je ne sais pas comment c'est possible, ça. Et puis, une situation totalement dégradée, puisque les 81 millions dont on vous parle en négatif, c'est 81 millions du groupe, c'est moins 80 millions au niveau du groupe. Au niveau de France Télévisions et ça, c'est moins 256 millions en 2024 et moins 290 en 2025. Est-ce que vous imaginez le désastre, la catastrophe? Et avec un capital social de 294 millions qu'elle a fait fondre comme neige au soleil puisqu'elle a pioché dedans. Et elle a pioché dedans en disant « c'est pas normal, on nous donne jamais assez d'argent ». Et en 2023, l'État réinjecte, recapitalise l'entreprise à hauteur de 32 millions déjà. Donc vous imaginez, avec des prêts qui sont quasiment à hauteur de 70 millions, des prêts, ça se rembourse. On en est là, on est dans une situation où une entreprise normale serait en faillite. Voilà. Mais on vous dit, France Télévisions n'est pas une entreprise normale, puisque c'est une entreprise publique. Cela dit, c'est une entreprise publique, mais de droit privé. C'est-à-dire qu'elle a exactement les mêmes obligations qu'une entreprise normale. C'est-à-dire que quand on voit qu'on est en déficit, eh bien, on doit saisir son conseil d'administration, on doit faire les choses nécessaires dans les 4 mois. La Cour des comptes a dit dernièrement, de 2017 à 2024, et donc 2025, mais elle arrêtait son rapport en 2024, le déficit est cumulé, il n'a cessé d'augmenter. Donc 81 millions en moins au niveau du groupe, 290 aujourd'hui en moins au niveau de l'entreprise. C'est énorme.
Et ce que vous expliquez, Jean-Jacques Cordival, en tout cas vous avez de sérieuses raisons de penser que si Delphine Ernotte peut se maintenir justement dans ce système qui est défaillant et qui aurait conduit n'importe quelle entreprise à remettre en question sa direction, eh bien voilà, vous supposez qu'a priori il y aurait eu usage d'artifices comptables en quelque sorte. Delphine Ernotte pourrait avoir maquillé les comptes et puis la façon dont l'argent circulait pour pouvoir s'en sortir et puis essayer de mettre encore une fois ses erreurs sous le tapis.
Vous avez dit le mot « artifice comptable ». C'est exactement la formulation qu'utilise l'ARCOM dans son dernier rapport. « Artifice comptable ». L'ARCOM écrit que Delphine Ernotte a eu recours à des artifices comptables. Fermez les guillemets. Donc, il y a un moment ou un autre, je citais à la commission d'enquête une députée socialiste qui s'appelle Martine Martinel, qui a été en charge de l'audiovisuel pendant de nombreuses années, qui était une femme formidable. Elle n'est plus députée, mais elle est toujours aussi formidable, ça n'a pas changé. Elle avait dénoncé à l'époque déjà, alors on n'était pas sur l'affaire Ernotte, mais elle dénonçait des comptes insincères. On peut pas dire pendant 10 ans, faire des communiqués pendant 10 ans, ah mais on est à l'équilibre, voilà. Et puis découvrir un rapport de la Cour des comptes qui dit que le déficit cumulé au niveau, je le rappelle, au niveau du groupe, c'est moins 81, et au niveau de l'entreprise, moins 290. C'est pas possible. Moi, j'ai fait maths à l'école, j'ai fait maths physique au niveau du bac. Je ne comprends pas comment on peut raconter des sornettes pareilles. Donc, à un moment, chacun prendra ses responsabilités. Mais l'État, de la même façon, parce que l'État a laissé faire. Il y a au conseil d'administration de France Télévisions, il y a des gens qui sont nommés par l'État. Alors, soit on ne leur a pas dit les choses telles qu'elles devaient être dites, et là c'est extrêmement grave, mais il faut savoir, et vous le savez sûrement, que l'intégralité des administrateurs sont co-responsables des actions à France Télévisions. Ils sont co-responsables, pénalement, juridiquement.
J'étais très mauvaise en maths, mais tout ce que vous me dites fait quand même sens. Donc, il faut pas, à mon avis, être ingénieur pour comprendre qu'effectivement, il y a des problèmes dans les calculs. Ce qui est dingue, par ailleurs, Jean-Jacques Cordival, c'est qu'encore une fois, qu'il y ait des problèmes de gestion, des erreurs, ça peut arriver. Mais en l'occurrence, Delphine Ernotte, puisqu'elle avait connaissance de ces problèmes de gestion, elle aurait eu toute la latitude pour pouvoir redresser la barre, puisqu'encore une fois, les dépenses faramineuses qui sont celles de France Télévisions, on ne peut pas vraiment dire que ce soit des dépenses liées au fonctionnement, ce ne sont pas des dépenses vitales. On parle de restaurants qui sont privatisés, on parle de paniers repas pendant le Covid, alors que, encore une fois, quand on fait le parallèle avec la situation des Français, il y a de quoi être estomaqué. C'est finalement du luxe qui a été entretenu pendant de nombreuses années, là où en fait, en se contentant de fonctionner comme une entreprise normale, hein, il ne s'agissait pas de réduire en esclavage tous les salariés, on aurait pu peut-être se retrouver à nouveau dans une entreprise qui fonctionne normalement et qui surtout utilise l'argent des Français à des fins plus correctes.
Mais vous vous rendez compte, c'est une entreprise publique, donc elle devrait être exemplaire, l'entreprise publique. À chaque fois, elle vous sort des communiqués en disant chaque euro dépensé doit avoir sa justification. Pourquoi on en est là? En 2015, lorsqu'elle est auditionnée par le CSA, c'est encore le CSA de l'époque, encore une fois avec cette plainte qu'on a déposée, bon, elle explique qu'elle va mettre en place une comptabilité analytique. Qu'est-ce que c'est qu'une comptabilité analytique? C'est le détail de chaque poste financier. Donc on vous détaille tout, on sait exactement là où telle et telle chose est dépensée. En 2016, vous avez un premier rapport de la Cour des comptes qui dit la situation est celle d'une impasse financière. Moi, je parle français, impasse, c'est qu'on n'arrive pas à en sortir. Voilà. Il faut absolument mettre en place cette comptabilité analytique que vous avez indiqué vouloir mettre en œuvre. Très bien. 5 ans se passent, on est en 2020, elle recandidate, si on peut appeler ça comme ça, elle est reparachutée à nouveau. Mais lors de son audition, elle dit « je vais mettre en place une comptabilité analytique ». Vous vous dites « mais il y a un problème, elle a dit qu'elle allait le mettre en place il y a 5 ans, pourquoi l'ARCOM ?» Alors, ce n'était pas l'ARCOM à l'époque, mais le CSA ne lui dit pas « mais madame, vous ne l'avez pas mise en place, bon, on va circuler, rien à voir. 2025, je vais vous poser une colle, devinez ce qu'elle dit dans son nouveau projet. Je vais mettre en place une comptabilité analytique. » Donc, on parle de panier repas, d'événementiel, de choses comme ça, etc. Mais tout ça, c'est mélangé. On a mélangé ça avec les tournages des salariés, les départs en mission et autres. Donc, on n'a pas le détail de tout ça. Alors, forcément, ça fait un poste important. c'est plusieurs millions. Et après, on vous dit, ah, mais ça coûte cher. Oui, mais d'accord, mais on a tout mélangé. Donc, on ne fait pas le détail entre ce qui est, encore une fois, des tournages, ce qui est nécessaire pour l'activité des salariés, et puis ce qui ne l'est pas, ce qui est du fait des événements, des choses comme ça, des projections. On invite des gens ici ou là, etc. Ils sont tout le temps en train de faire des petites sauteries. C'est ça qui est invraisemblable.
Oui. Et puis, encore une fois, cautionné par les personnes qui nous gouvernent, puisque vous l'avez dit, ils sont d'une façon ou d'une autre co-responsables de la façon dont France Télévisions fonctionne, des gens qui sont nommés à leur tête. Il y avait d'ailleurs, au moment de la nomination de Delphine Ernotte, quelques questions à ce propos aussi, et notamment des soutiens plus ou moins affirmés de la part de François Hollande, de mémoire. Là encore, ça pose un tas de questions.
Et bien sûr, à l'époque, vous avez un des membres du CSA, ça figure dans le dossier judiciaire qu'on avait à l'époque. Vous avez Nicolas Abou, qui est l'un des membres du CSA, qu'il témoigne. Hein, il dit « j'ai jamais vu ça, la juge ». Il dit « c'est invraisemblable ». Et il intervient en disant « Schrammeck a posé une question à Delphine Ernotte pour finalement emporter son élection. Quelle est la différence entre un médecin et un enseignant ?» Je ne sais pas si vous savez, moi j'aurais jamais su répondre à ça, vous rendez compte. C'est vachement dur comme question. Voilà. Donc on en est là, c'est grave, oui, bien sûr. Et l'État, encore une fois, fut-il responsable, il n'est pas que responsable. Il y a tout un tas d'errements, il y a tout un tas de manquements qui ont été faits à France Télévisions sans que jamais personne lève le petit doigt. Et vous avez vu, je vous l'ai dit, en 2023, recapitalisation à hauteur de 32 millions. On ne peut pas dire que l'État n'est pas intervenu, il est déjà intervenu. 32 millions de l'argent des Français.
Oui. Et... ce qui est frappant, Jean-Jacques Cordival, c'est qu'on dépasse les questions de clivage politique, vous l'avez dit. Même l'ARCOM, en fait, se rallie à votre témoignage sur certains points. L'ARCOM elle-même dénonce des problèmes dans la nomination de Delphine Ernotte. On n'est plus dans un combat politique.
Bah, si vous voulez, il y a un moment, il faut se poser la question, effectivement. On vous dit... Je vais vous le refaire, moi, président de la République, je n'interviendrai pas sur la nomination des PDG de l'audiovisuel public. La première chose qui est faite, c'est exactement l'inverse, c'est l'intervention. Ça fait maintenant, c'est la troisième fois qu'elle est reparachutée. Elle a été parachutée une première fois, puis reparachutée une deuxième, puisqu'on peut imaginer que la première fois, elle l'a été. Voilà. On en est là aujourd'hui. Donc, on ne peut pas, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, tous les manquements, toutes les dérives qu'il y a à France Télévisions qui ont conduit à cette situation, c'est pas moi qui la donne, c'est la Cour des comptes, c'est l'Inspection Générale des Finances, c'est même l'ARCOM. Bon, mais ça veut dire quoi quand ces choses-là arrivent? Par exemple, quand il y a le rapport de la Cour des comptes qui sort, Delphine Ernotte réunit ses cadres et elle leur explique, je vais faire une citation, que c'est du bullshit. Le terme, il est là, bullshit. Ça veut dire que c'est, vous avez compris comme moi, bullshit, c'est un paquet de crottes, un paquet de merde. Bon, et elle dit à ses cadres, oh, puis on ne comprend pas toutes les réactions derrière, c'est du shitstorm, c'est une tempête de merde, c'est-à-dire un peu une tempête. Je ne fais que traduire. Hein. Voilà. Dire ça à ses cadres, alors que l'Inspection Générale des Finances et la Cour des Comptes ont rendu des rapports. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les instances de contrôle de la République ne servent à rien, ou on les considère comme on est en train de miner la République avec des raisonnements comme ça. Et elle pond un vadémécum de 8 pages en interne pour dire voilà comment il faut voir les choses, voilà comment il faut les présenter, et voilà les éléments de langage. Et elle va devant la représentation nationale et elle débite à chaque fois les âneries qu'on peut sortir. Parce que, voilà. Et à chaque fois, la représentation nationale dit « Ah, madame, merci, merci de votre intervention, on a tout compris ». Moi, je ne suis pas député, mais je me demande de temps en temps s'ils ont vraiment compris ce qu'ils entendent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'entendre ça. Ça, c'est sûr. Voilà. Je vais prendre l'exemple de Salto. Vous vous souvenez, Salto?
Oui.
Cette plateforme de streaming, ça devait concurrencer Netflix en 2 ans et demi. Elle est dissoute. Dissoute. Voilà, liquidée. C'est fini, on n'en parle plus. Ça a coûté 90 millions pour la partie France Télévisions. Ça a coûté 90 millions aux Français. Vous prenez 90 millions, vous les jetez dans une poubelle. Voilà. Oui. Et bien ça, c'est quand même pas la faute de l'État. Il y a un moment, il faut prendre ses responsabilités. Alors après, on vous dit, non mais c'est à part. Et non, c'est pas à part. C'est dans le budget global. C'est pas à part. Et donc, les déficits aujourd'hui sont tels qu'ils sont. On est dans une situation de faillite. Et c'est clair, et c'est pas aux salariés de encore une fois, de d'essuyer les pots cassés. C'est pas eux qui doivent être la variable d'ajustement. Quand on dit les salariés, ils touchent 7000 euros en moyenne par mois, c'est totalement faux. Pour faire une moyenne comme ça, il faut qu'on ait des salaires très très hauts. Et la Cour des comptes pointe les 30 plus gros salaires entre 250 et 300 000 euros et les suivants autour de 100 000. Bon, nous on a fait un calcul, si vous prenez les 50 plus gros salaires à France Télévisions, ça fait à peu près, hein, je te dis bien, le salaire d'un quart des députés sur un an. 50 plus gros salaires, le salaire, un quart des 577. Vous n'avez qu'à faire le calcul, vous allez voir, c'est absolument insensé. Donc forcément, quand vous avez des salaires énormes, les gens qui sont à 3000 euros ou 2005, il y en a beaucoup à France Télévisions qui sont dans ces eaux-là, c'est pas du tout, c'est des salaires tout à fait normaux. Bah, quand vous avez des salaires à 250 000 ou 300 000 euros, à commencer par le salaire d'Ernotte qui est à 400 000 euros et qui vient en plus, vu la situation, de se faire verser une prime de près de 80 000 euros, c'est formidable. Dans le privé, Les directeurs généraux dans le privé renoncent à une telle prime quand l'entreprise va mal. On me rappelait un PDG d'entreprise, c'est pas en France, c'est aux États-Unis, mais qui dit, moi, mon salaire, ça sera 1 $ pendant un an, et puis après, on verra. Bon, là, on lui donne une prime de 80 000 euros, alors que l'État dans lequel est le groupe n'aurait même pas dû, on n'y aurait même pas dû lui donner un centime. Voilà où on en est. C'est extrêmement grave. Et alors, après, on dit, bah, les salariés, c'est pas aux salariés de payer les pots cassés. Les salariés, ils bossent, ils ont envie de bosser et ils en ont ras-le-bol. Mais je vous le dis, parce qu'on les voit tous les jours, ils en ont ras-le-bol de cette situation. La seule chose aujourd'hui, c'est que Delphine Ernotte fasse comme la présidente du Louvre.
Merci beaucoup, Jean-Jacques Cordival, d'avoir été avec nous. Merci pour votre travail. Merci d'oser prendre la parole et puis de dénoncer tout ça, puisque vous le dites, vous êtes la parole des salariés de France Télévisions. Mais en fait, je pense que vous êtes aussi, dans le même temps, celle de beaucoup de Français, par effet. Donc voilà, merci pour ça. Et puis, on ne manquera pas de vous réinviter en fonction de la façon dont évolue cette commission d'enquête.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
C'était Jean-Jacques Cordival qui s'exprimait à notre antenne le 4 mars dernier. Cet entretien ainsi que tous les autres que nous avons écoutés ce matin sont à retrouver sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Ligne Droite, ou encore sur le site internet de Radio Courtoisie, rc.fr. C'est la fin de ce programme spécial de lundi de Pâques, mais vous retrouverez toute l'équipe de la matinale dès demain matin en direct à partir de 7h. Très bonne journée à tous.